Bonjour, c'est Maxime, l'hôte du Green Letter Club. Vous le savez, sur le Green Letter Club, on ne fait pas de pub ou de partenariat bizarre. Bref, on est 100% indépendant. Et pour le rester, on a besoin de vos dons. Alors n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce sur Tipeee, vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Et pour se financer, on organise aussi des fresques du climat ou de la biodiversité et des conférences sur les questions climatiques. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous écrire. Un grand merci du fond du cœur et bonne écoute. Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler de nourriture industrielle et donc de malbouffe. Additifs dangereux, traces de pesticides, lobbies industriels, les maladies liées à l'alimentation explosent. D'où cette question, l'industrie agroalimentaire menace-t-elle notre santé? Pour y répondre, nous avons invité Karine Jacquemart, directrice de Foodwatch en France, une ONG qui défend les citoyens en matière d'alimentation. Karine Jacquemart, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous faire le plaisir de venir dans le Green Letter Club. En deux mots, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours et le but de Foodwatch ?
Bien sûr. Donc, mon parcours, ça a été, après une école de commerce et travailler dans le secteur privé, d'avoir voulu chercher beaucoup plus de sens. Donc, je suis partie dans l'humanitaire à 29 ans avec Action contre la faim. Donc, j'ai été chef de mission dans beaucoup de pays en Afrique. Et puis, j'ai voulu regarder ce qu'on pouvait faire en amont, peut-être avant, justement, ces crises humanitaires. Il est impératif d'y répondre, mais si on peut les prévenir, c'est encore mieux. Et là, j'ai croisé le chemin de Greenpeace International, qui a ouvert des bureaux en Afrique en 2009. Et pendant presque 7 ans, j'ai accompagné, du coup, le développement d'une équipe et de campagnes en Afrique centrale pour protéger les forêts, qui sont le deuxième poumon de la planète, dans le bassin du Congo, mais aussi les populations, parce que je suis intimement convaincue que tout est lié. Et on en parle aujourd'hui, tant mieux. Il faut de plus en plus expliquer que les problèmes sont liés. La protection de l'environnement, la protection des droits fondamentaux des populations, ça va ensemble et il faut qu'on lutte pour une meilleure justice sociale et environnementale ensemble. Donc c'est ce que je cherche à faire. Et depuis 2015, donc je suis directrice de Foodwatch France, puisque Foodwatch est un mouvement européen, un contre-pouvoir citoyen, 100% indépendant, qui a été créé en 2002 en Allemagne. Et puis on a un bureau aux Pays-Bas, en France, une présence à Bruxelles bien sûr. Et on va continuer à ouvrir des bureaux dans les pays européens parce que l'objectif, c'est une alimentation saine pour tous et plus de transparence dans le secteur alimentaire en Europe notamment. Et donc, pour avoir ça, il faut absolument qu'on influence les choses au niveau des États membres nationaux, mais aussi au niveau européen, où se fait 90% de la réglementation sur l'alimentation.
Alors, première question, quand on s'intéresse à ces sujets, on lit forcément les livres de Christophe Brusset, un ancien cadre de l'agro-industrie avec qui vous avez travaillé, je crois. Et on voit que derrière chaque produit, que ce soit une soupe, une pizza, un plat préparé, il y a plusieurs intermédiaires. Il y a des fabricants qui s'échangent des conteneurs de produits, parfois de mauvaise qualité, parfois avariés. Quand on lit ça, on se dit l'agro-industrie, c'est devenu le Far West. C'est votre sentiment ?
Dans une certaine mesure, en tout cas, le constat initial qui fait qu'on existe, qui fait qu'on doit tous se rassembler de plus en plus pour peser, il est assez incroyable hein, à la base, puisque le constat, c'est qu'aujourd'hui, en France, en Europe, en 2020, non, on n'a pas accès à une alimentation saine, alors que ça devrait être normal. En fait, on fait face à des produits de plus en plus transformés, et malgré une réglementation européenne, du coup, qui s'est beaucoup renforcée depuis la crise de la vache folle, il y a eu beaucoup de choses qui se sont renforcées, mais néanmoins, on se retrouve avec des produits commercialisés qui devraient, d'après la réglementation, évidemment ne pas porter atteinte à la santé des citoyens, des consommateurs. Et c'est pas le cas, parce qu'on a d'une part des additifs controversés pour la santé, d'autres substances, on va y revenir, j'en suis sûre, controversées pour la santé, et puis des déséquilibres nutritionnels importants avec la malbouffe, avec des produits trop gras, trop sucrés, trop salés. Et le résultat, c'est quoi ? Le résultat, c'est que, bien sûr, on a eu cette pandémie du Covid-19 qui vient de nous toucher de plein fouet. Mais derrière cette pandémie dont on a énormément parlé, se cachent des épidémies silencieuses, comme celle de l'obésité, qui touche des millions de gens, qui touche un enfant sur 6 en France quand même, ce qui est énorme. Des épidémies aussi de maladies chroniques. Et derrière ça, de quoi on parle ? On parle de diabète, on parle de nombreux cancers, dont il est connu, et l'Organisation mondiale de la santé le dit, le documente régulièrement, qu'une des causes principales, c'est pas la seule, mais une des causes principales, c'est l'alimentation et la malbouffe.
Alors, quels sont les liens avérés, justement, entre la nourriture industrielle et les maladies? Est-ce qu'on a des maladies qui sont vraiment chroniques? Vous avez cité l'obésité, le diabète. Quel est le constat aujourd'hui?
C'est celui-là, en fait, c'est vraiment un des sujets qui nous préoccupe le plus et qui nous mobilise le plus, c'est l'impact de l'alimentation sur la santé. Donc, si vous voulez, il y a deux aspects. D'un côté, il y a l'aspect nutritionnel, c'est-à-dire l'impact du trop gras, trop sucré, trop salé. Et ça, on sait, effectivement, c'est complètement documenté, les millions de personnes en France qui sont atteintes de diabète et les dizaines de milliers de personnes qui en meurent chaque année. Et puis, ce problème de l'obésité. Et ce sont des facteurs aggravants derrière pour des problèmes cardiovasculaires, par exemple. Tout ça est très documenté par les scientifiques. Maintenant, la solution, c'est quoi? La solution, il y en a deux, par exemple, qui sont très faciles. Et c'est pour ça qu'on les défend en priorité. La première, ça peut être ce fameux logo nutritionnel dont on a beaucoup parlé en France, le Nutri-Score. On veut que ce logo nutritionnel soit rendu obligatoire partout en Europe pour qu'on ne soit pas à la merci d'une entreprise qui va le faire ou pas. Il y a un deuxième point qui est très important. Je parlais des enfants tout à l'heure. Un enfant sur 6 en France est en surpoids ou obèse. C'est un adolescent sur 5. C'est inacceptable dans une société comme la nôtre où on a les moyens de les protéger. Et l'Organisation mondiale de la santé, comme beaucoup d'autres scientifiques, sont tous d'accord pour dire qu'il y a un moyen particulièrement efficace pour les protéger, c'est de réglementer la publicité et le marketing qui les cible pour des produits trop gras, trop sucrés, trop salés. Eh bien, cette mesure, ça fait 3 ans qu'on se bat en France pour qu'elle soit adoptée dans une loi. Elle a été proposée par plusieurs députés dans la loi agriculture-alimentation de 2018 et puis dans différents projets de loi. On espère maintenant que ça sera enfin adopté dans la réforme de l'audiovisuel qui, là, a été mise en suspens par la crise Covid, mais qui va reprendre, on ne sait pas encore quand, mais prochainement. Et on espère que cette mesure d'interdiction sera prise à la fois à la télé et sur Internet, parce qu'aujourd'hui, si on regarde bien, même quand les parents cherchent à être vigilants, la vérité, c'est que les enfants sont matraqués en permanence par des petits personnages de dessins animés, tantôt sur les produits eux-mêmes, tantôt dans des jeux. Quand on voit les biscuits Oreo qui sautent ce qu'on appelle les advergames, eh ben ça, il faut arrêter, parce que tout simplement, ça amène à un désastre sanitaire. Ce qui est particulièrement agaçant, c'est que la raison pour laquelle cette interdiction de la publicité et du marketing pour la malbouffe qui cible les enfants n'est pas passée, c'est parce qu'il y a encore une idéologie du gouvernement actuel et de beaucoup dans la majorité qui veut absolument ne pas mettre de contraintes supplémentaires sur les entreprises et qui nous dit « on va pas mettre une règle publique, on va pas mettre une loi, on va responsabiliser les entreprises ». Mais ces engagements volontaires, ça ne marche pas, ça n'est pas efficace et c'est pas ça qui va protéger les enfants.
Alors, vous avez parlé tout à l'heure du Nutri-Score. Est-ce que vous pouvez rappeler sa genèse? Ça a été fait par des scientifiques et les entreprises ont essayé de torpiller le Nutri-Score. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé?
Oui, c'est l'histoire des pouvoirs et contre-pouvoirs. C'est-à-dire qu'il pour malheureusement, alors que ça devrait être encore une fois une évidence d'avoir cette alimentation saine à disposition, il faut se battre pied à pied avec des gens qui défendent leurs intérêts privés, les lobbies de certaines entreprises, pour les citer. Et donc, ce qui s'est passé déjà, c'est qu'en 2010, il y a une réglementation européenne qui a été votée, justement, pour tout ce qui concerne les informations qui sont mises sur les denrées alimentaires dans toute l'Europe. Et parmi les règles, ce qui a été proposé dans cette réglementation, c'était justement un logo nutritionnel obligatoire, donc dès 2010. Et il a été documenté par une ONG, on a mis la référence à ce rapport sur notre site internet, il a été documenté que les lobbies de l'industrie agroalimentaire ont dépensé 1 milliard d'euros à l'époque pour influencer la décision et bloquer cette décision. Malheureusement, ils ont réussi. Donc depuis, en fait, il ne peut pas y avoir de logo nutritionnel obligatoire en Europe. C'est pour ça que c'est une avancée que la stratégie européenne qu'on appelle de la ferme à la fourchette, Farm to Fork, que la Commission européenne a publié il y a une semaine, pour la première fois mentionne noir sur blanc que oui, il y a le projet de nouveau en Europe de rendre ce logo obligatoire.
Entre-temps, parce que les industriels ont essayé de faire leur propre logo.
Voilà, j'y arrivais. Du coup, ils ont bloqué. Et aujourd'hui, on va revenir enfin à cet objectif-là. Entre-temps, les péripéties ont été que, pour le coup, le gouvernement français a pris l'initiative, il y a 3 ou 4 ans, a pris l'initiative d'adopter en fait un logo, le Nutri-Score, après beaucoup de tests, qui est un logo d'ailleurs qui a été développé par des scientifiques indépendants, donc qui est très bien, très utile. Et la France l'a adopté, mais ne peut pas le faire de façon obligatoire. Mais du coup, a dit aux entreprises, voilà, nous, on recommande ce logo-là. Et À ce moment-là, les mêmes géants de la malbouffe qu'on appelle les Big Six, donc Nestlé, Coca, Pepsi, Mondelez, Unilever et Mars à l'époque, ces six-là qui avaient bloqué le projet, tout d'un coup se sont mis à dire « Ah, mais en fait, si, on est pour un logo, ne vous inquiétez pas, mais pas celui-là, on est pour notre propre logo. » Et là, ils ont mis en branle, en fait, tout un projet pour mettre en place leur propre logo qui était basé sur des portions. Donc, en fait, c'est, vous savez, le diable se cache dans le détail. C'est-à-dire qu'en fait, la méthodologie qu'ils proposaient n'avait aucun sens et permettait d'afficher sur leurs produits des couleurs beaucoup plus vendeuses, du orange plutôt que du rouge, du vert plutôt que du orange. Donc on a dénoncé ça, bien sûr, on l'a dénoncé haut et fort, à grande force d'articles, de communiqués de presse en France, mais aussi dans les autres pays européens où on est. Et heureusement, ça s'est arrêté, et surtout des grandes entreprises comme Nestlé ont fini, moi j'ai eu beaucoup d'échanges directs hein, avec le directeur marketing à l'époque de Nestlé, et où je leur disais, mais vous devez absolument l'adopter, il y a plus de 100 entreprises en France qui l'ont adopté, vous devez le faire parce qu'il faut absolument que ce soit adopté au niveau européen. Et franchement, il a fallu se battre pendant des mois et des mois, mais ils l'ont fait, et grâce aussi au travail de mes collègues en Allemagne et aux Pays-Bas, on a maintenant le gouvernement allemand et hollandais qui ont adopté le Nutri-Score, et de plus en plus d'entreprises qui l'adoptent. Donc on a l'espoir que on y arrive, mais encore une fois, ça a demandé effectivement beaucoup d'efforts, et il faut être très vigilant à la contre-information, à la désinformation.
Alors on va parler des additifs, on va prendre les problèmes les uns à la suite des autres parce qu'il y en a beaucoup. Les additifs, il y en a plus de 300 aujourd'hui en Europe qui sont autorisés. Est-ce qu'on connaît leur dangerosité? Est-ce qu'on arrive à étudier ça?
Il y a un certain nombre de substances potentiellement dangereuses pour la santé dans notre alimentation. Les additifs en font partie. Il y a les résidus de pesticides, il y a les huiles minérales dont on va reparler. Alors, les additifs, c'est quoi? Les additifs, ben, effectivement, on a affaire de plus en plus à des produits transformés. C'est-à-dire que ce qu'on trouve dans les rayons, ce sont des produits qui ont été transformés par les industriels. Et les additifs, ça peut servir à plein de choses. Il y a effectivement des conservateurs, il y a les colorants, il y a les exhausteurs de goût, ils ont plusieurs fonctions. Et c'est ce qu'on trouve sous le nom des E, avec des chiffres derrière, qui correspondent à chaque fois à une catégorie différente, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'on les retrouve aussi sous plein de noms barbares. Et ça, ça fait partie du manque de transparence. C'est-à-dire qu'il est très difficile de les identifier facilement.
Et souvent, c'est pour rendre le plat plus présentable, donner plus envie, pour donner de la texture.
Voilà. Alors, il y a plusieurs catégories. Effectivement, certains sont plus utiles que d'autres. Et d'ailleurs, quand on va regarder lesquels, finalement, nous, on pense qu'il faudrait supprimer, c'est un des critères. C'est effectivement à quel point ils sont utiles. Parce que peut-être ils vont permettre de mieux conserver un produit ou d'éviter qu'il y ait des bactéries qui peuvent être dangereuses qui se développent. Ou alors, comme le E171, qui a le dioxyde de titane, un nanomatériau donc dangereux pour la santé, qui ne sert que à blanchir. Il est évident que quand on a une échelle de risque qui est... les scientifiques prouvent que il y a un risque pour la santé et en même temps, ça ne sert pas à grand-chose. Donc là, on est en bas de l'échelle de l'utilité. Pour nous, c'est une évidence qu'il faut les interdire. Ce n'est pas évident pour tout le monde et on continue à se battre. Mais oui. Après, vous le disiez, il y a 338 additifs autorisés en Europe. Il y en a 48 de mémoire dans le bio. Mais pour autant, dans le bio, on continue de trouver des nitrites qu'on ajoute souvent dans la charcuterie. Donc tout n'est pas parfait dans le bio, mais au moins il y en a moins. Mais dans ces 338 additifs, il y en a un certain nombre pour lesquels il y a effectivement de la documentation scientifique qui dit « attention, il y a un danger, il y a risque pour la santé ».
Lequel, par exemple ?
Ben, le dioxyde de titane, on en a parlé, les additifs à base de nitrite et nitrate, les diphosphates, voilà, y a plusieurs additifs comme ça qui sont potentiellement dangereux pour la santé. Là où il faut rappeler quelque chose qui existe en Europe, c'est le principe de précaution. C'est-à-dire qu'en Europe, on a la chance d'avoir dans les traités européens et dans la Constitution française quelque chose qui s'appelle le principe de précaution. La plupart des autres pays ne l'ont pas. Pourquoi j'en parle ? Parce que sur la base de ce principe de précaution, les responsables politiques devraient quasiment automatiquement interdire ces substances. Pourquoi ? Parce qu'avec ce principe de précaution, on n'a pas besoin d'attendre d'avoir une certitude à 200% scientifique qu'un produit est effectivement dangereux pour la santé. On a besoin simplement d'avoir des scientifiques qui nous prouvent qu'il y a un risque crédible pour que le législateur puisse dire « Ok, dans ces conditions, on va faire attention ». Donc, tous ceux qui ont des études scientifiques qui montrent que c'est dangereux, devraient être interdits automatiquement. Et aujourd'hui, ben on les prend un par un parce que ce n'est pas le cas. Mais on ne va pas lâcher au niveau européen. Et enfin, il y a un dernier élément, c'est ce qu'on appelle les effets cocktails. Plus vous avez de substances chimiques qui sont mises dans un même produit, donc plus vous avez d'additifs qui sont mis dans un même produit, plus les résidus de pesticides, plus toutes les autres substances qu'on peut trouver, plus les toxicologues nous alertent en disant « attention, on ne peut absolument pas ni maîtriser ni analyser l'ensemble de chaque interaction de ces substances chimiques mises ensemble ». Quand on sait que dans une pizza, il peut y avoir plus de 30 additifs, franchement, on peut se poser la question, du coup, de l'effet cocktail et de ce que ça fait dans votre corps. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il y en a trop et qu'il faut commencer par interdire ceux qui sont dangereux et il faut continuer à réduire pour protéger tout simplement la santé.
Sachant que, par exemple, si on suit Génération Future, ils disent que sur les pommes, par exemple, on met plus de 15 produits différents. Donc, s'il y a plusieurs ingrédients encore, on imagine l'effet cocktail.
Là, on était sur les pesticides, ouais. Génération Future parlait des pesticides.
Du coup, je reprends ce que vous disiez tout à l'heure sur les additifs. Aujourd'hui, il y a des additifs, le E171, qui est montré comme dangereux par les études scientifiques et qui est autorisé aujourd'hui dans nos assiettes en Europe. C'est ça ?
Alors, du coup, c'est un bon exemple, E171, parce que ça montre à quel point il y a besoin, si vous voulez, de notre combat, tous ensemble, de réunir nos forces pour du coup, obtenir cette alimentation plus saine. Ce qui s'est passé, c'est que ça a été finalement adopté dans la loi en 2018. Puis, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, était réticent de le mettre en place. Donc, on a fait une tribune à plusieurs ONG pour dire publiquement bah, « si, en fait, c'est la loi, il faut le mettre en place ». Et puis, finalement, on l'a rencontré en personne à plusieurs associations début 2019. Et il a reconnu qu'il fallait le faire. Et donc, en avril 2019, la décision a enfin été prise en France pour une suspension d'un an du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Mais du coup, ça ne suffit pas. Il faut que ce soit interdit partout en Europe. Donc on a pris notre bâton de pèlerin et on est allé rencontrer la direction de la santé de la Commission européenne avec d'autres ONG européennes pour pousser et pour leur demander d'interdire cette substance également en Europe. La décision n'est toujours pas prise et on attend soi-disant une nouvelle évaluation scientifique au niveau européen. Qui devrait paraître cet été. On va suivre ça de très près parce qu'il faut évidemment que ce soit interdit partout. Par ailleurs, la suspension en France était pour un an et donc je n'ose même pas imaginer qu'elle ne soit pas reconduite. Mais là encore, nous allons être vigilants parce qu'il est hors de question de revenir en arrière. Et si vous voulez, c'est d'autant plus incompréhensible et on se bat d'autant plus pour obtenir cette interdiction en Europe que même l'industrie est d'accord. C'est-à-dire que sous la pression des ONG, ils ont de toute façon anticipé et l'industrie qui utilisait cet additif, notamment dans les bonbons, on le trouvait dans les chewing-gums, dans les bonbons, dans beaucoup de confiseries, ont de toute façon, pour la plupart, déjà changé leur processus de fabrication de façon à prendre en compte cette interdiction. Donc en fait, on se rend compte que quand il y a une décision des responsables politiques pour protéger la santé des citoyens, l'industrie, elle s'adapte. C'est pas un problème. Encore faut-il avoir ce courage politique-là.
Et quoi d'autre comme additif ? Du coup,
on en parlait. Il y a celui qui est très connu, c'est aussi les additifs à base de nitrite et nitrate qu'on trouve beaucoup dans la charcuterie. Donc, on a lancé une pétition en novembre 2019 avec Yuka, justement, et la Ligue contre le cancer, parce que c'est important de se mettre à plusieurs pour dire, on voit tous le problème et on voit tous la solution. Donc, on va pousser. Il y a plus de 200 000 personnes qui ont signé cette pétition. Il y a une mission parlementaire qui est en cours. Et j'ai vu encore une fois le ministère de la Santé il y a quelques jours. Le gouvernement, j'espère, travaille dessus et j'espère prendre la bonne décision.
Mais ça, c'est des conservateurs. Est-ce que l'industrie est capable de faire de la charcuterie sans nitrite ? C'est ça, la question.
Alors justement, il y en a qui le font déjà. Si vous regardez bien dans les rayons aujourd'hui, vous avez des produits de charcuterie sans nitrite. On sait aussi qu'au Danemark, ça fait des années qu'ils font de la charcuterie sans nitrite. Et pour autant, les gens ne sont pas tombés malades du botulisme, puisque c'est en général le risque sanitaire qui est mis en avant par les professionnels de la charcuterie. Maintenant, l'idée, ce n'est pas de mettre non plus au pied du mur les professionnels de la charcuterie. C'est rien, absolument rien contre eux. Au contraire, ils nous disent, ben oui, on va le faire, mais il nous faut 3 mois ou je ne sais pas, ou d'accompagnement. Encore une fois, on n'est pas irrationnel. Laisser le temps à l'industrie d'adapter son processus de fabrication pour mettre en œuvre une décision, il n'y a pas de souci. Encore faut-il prendre cette décision, qui est une décision politique, de la responsabilité régalienne de l'État et de l'Europe, de protéger la santé des citoyens. C'est tout ce qu'on demande.
Alors, on a parlé des additifs, maintenant on va parler des pesticides, parce que aujourd'hui on se rend compte, si on suit l'étude de 2019 de Génération Future, qu'il y a par exemple 72% des fruits vendus en France qui ont des traces de pesticides, et c'est des fruits très courants, 82% sur les fraises, 83% sur les pêches. Aujourd'hui, c'est dangereux, toutes ces traces de pesticides. Est-ce qu'on commence à voir des liens sur la santé ?
Bah, effectivement, vous faites bien de faire référence à l'étude de Génération Future, hein, qui font un boulot formidable sur toutes ces questions. Donc là encore, c'est pas moi qui le dis. Il faut se référer à toutes les études scientifiques. Et donc, oui, il y a des risques pour la santé quand on est exposé aux pesticides chimiques. En tout cas, il y en a certains qui sont identifiés comme dangereux pour la santé et l'environnement. Et là encore, on est face à des situations ubuesques. Par exemple, on a communiqué. Là, le 17 avril, on a lancé une pétition à l'échelle européenne toujours pour influencer au niveau européen, parce qu'il y a un certain nombre de pesticides qui sont interdits d'usage en Europe parce que précisément, ils ont été identifiés, évalués comme potentiellement dangereux pour la santé et l'environnement. Eh bien, ces pesticides ne sont pas interdits à la production en Europe et à l'exportation. Tant et si bien que, évidemment, Bayer, Syngenta, BASF et les autres continuent à produire ces pesticides, à les exporter en Afrique et ailleurs. Et on a un effet boomerang, puisqu'en plus, comme après, on importe des produits alimentaires de ces pays-là, ben on les importe avec des résidus de ces pesticides qui étaient interdits. Donc, c'est absolument hallucinant. Donc, comme pour les additifs, il y a au moins un certain nombre, si vous voulez, de substances qui sont clairement identifiées comme dangereux. Il faut en interdire non seulement l'usage, mais aussi la production et l'exportation.
Il y a un autre phénomène, on a parlé des pesticides, on a parlé des additifs. Les huiles minérales, qu'est-ce que c'est que ce scandale-là ? On en a entendu parler un peu dans l'actualité. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que c'est ?
Oui, parce qu'en fait, c'est très peu connu. C'est très peu connu du grand public. Mais comme vous parliez de Christophe Brusset tout à l'heure, qui a écrit « Vous êtes fous d'avaler ça », lui le confirmait. C'est très connu de l'industrie et c'est très connu des responsables politiques en Europe.
Oui, il dit que ça fait 20 ans ou 30 ans qu'on connaît.
Bien sûr, et c'est ça le scandale. Et c'est pour ça que Foodwatch s'est attaqué à ce problème depuis 2015 et qu'on a remis les pieds dans le plat en novembre 2019 en publiant des tests qui révèlent effectivement une contamination des laits infantiles par ces substances, ces huiles minérales. Alors, c'est quoi ? Ces huiles minérales, ce sont des dérivés d'hydrocarbures, déjà. On comprend mieux le danger quand on les décrit comme ça. Et la catégorie la plus dangereuse de ces dérivés d'hydrocarbures, qu'on appelle les MOA, est absolument reconnue par tous les scientifiques. Pour le coup, il y a vraiment un alignement des planètes, il n'y a pas de controverse. C'est reconnu comme étant potentiellement cancérogène, mutagène et même perturbateur endocrinien. Donc autant dire que ça n'a rien à faire dans nos assiettes. Pour autant, il n'y a aucune réglementation, ni en Europe, ni en France. Et c'est pour ça qu'on se bat depuis 2015 pour qu'il y ait une réglementation pour protéger, encore une fois, la santé des consommateurs, parce que c'est invisible à l'œil nu. Donc vous pouvez toujours retourner un paquet de riz ou un lait pour bébé ou n'importe quoi. Vous pouvez toujours regarder l'emballage ou même regarder le produit. Ça ne vous dira jamais si c'est contaminé, puisqu'il faut le regarder de façon très précise, en laboratoire.
Et ça, ça vient des emballages ? Ça vient de quoi ?
Alors voilà, la complexité, c'est que ça vient de plusieurs sources. En effet, ça peut venir des emballages. Par exemple, on avait vu que des emballages en carton pouvaient avoir des encres qui ont été peut-être recyclées, des colles, des choses comme ça. Les emballages en métal dans lesquels il y a les laits infantiles sont aussi mis en cause, même si on n'en a pas encore la preuve tout à fait définitive. Mais il n'y a pas que les emballages. C'est-à-dire que ça peut aussi être dans la fabrication, dans les machines. Par exemple, une machine pour couper les pâtes, on peut utiliser une huile industrielle dedans et qui contient ces fameuses huiles minérales. Le problème de ces huiles minérales, ces dérivés d'hydrocarbures, c'est que c'est volatile. Donc en fait, ça peut passer de la machine à l'aliment. Il y a plein de sources différentes. Pour autant, il est complètement faisable et réaliste pour les industries de faire en sorte qu'il n'y en ait pas dans le produit fini. C'est-à-dire que la responsabilité de l'industrie, c'est de regarder toutes les sources possibles, d'avoir un plan de surveillance et de mettre en place des mesures pour s'assurer d'une chose qui est ce que Foodwatch demande, qui est qu'à la fin, quand il y a un produit qui est commercialisé, il ne doit pas contenir de quantité détectable de ces fameux MOA. Et donc cette finalité-là, on a obtenu l'engagement de 6 des plus gros distributeurs en France dès la fin de l'année 2016, qui depuis ont un plan de surveillance là-dessus, mais on n'a pas encore obtenu ni une mesure de la part de la France qui pousse au niveau européen. Certes, on est en contact avec le ministère de l'économie qui nous le dit, et je sais que c'est vrai, mais qui pour autant refuse de prendre une mesure d'urgence en France en attendant d'avoir une réglementation européenne. Et on a la Commission européenne et les États membres qui avancent là-dessus, qui bossent. Pourquoi ? Parce que, évidemment, quand on a décidé en 2019 que ça suffisait, que ça allait trop lentement, que les consommateurs n'étaient toujours pas protégés et qu'il fallait faire avancer les choses, on s'est dit, ben, on va tester des produits pour les enfants. Parce que si on arrive à prouver qu'effectivement, dans des produits pour bébés, il y a cette contamination par ces dérivés de pétrole dangereux, alors peut-être que ça va les faire bouger. Et en effet, il a fallu ça pour que tout d'un coup, il y ait un coup d'accélérateur. Donc là, effectivement, il y a des réunions au sommet, au niveau européen, pour une réglementation, mais on n'y est pas encore. Et surtout, du coup, dans les tests qu'on a fait fin 2019, on a découvert que des laits infantiles, notamment de Danone et de Nestlé, étaient contaminés. On les a contactés, on a communiqué là-dessus, on leur a demandé de retirer, juste par précaution, et pour rassurer aussi, évidemment, leurs clients, on leur a demandé de retirer des marchés, de faire un rappel de la gamme de ces produits, ce qu'ils ont refusé de faire. Et depuis, c'est silence radio. On leur a également demandé de s'engager à mettre en place dans leur chaîne justement de production des mesures pour garantir aux gens qu'il n'y aurait plus cette contamination. Et depuis, c'est silence radio. Et donc ça, c'est absolument inacceptable parce qu'on parle là, encore une fois, d'une substance qui est invisible à l'œil nu. C'est-à-dire que si nous, on n'avait pas mis les pieds dans le plat en faisant nos propres tests, ça coûte de l'argent et puis ce n'est pas notre métier. Hein, de trouver des laboratoires et de s'assurer que c'est fait dans les règles de l'art. Et bien, c'est ce qu'on a fait. Parce qu'on se rend compte que ça fait bouger les choses. Mais on n'y est pas encore. Et donc, je vous le dis, on va continuer de communiquer sur ce dossier parce qu'il est impératif que Nestlé, Danone et tous les autres rendent des comptes. Et il est impératif qu'il y ait une réglementation, là encore, pour juste protéger la santé.
Et alors là, le directeur de Nestlé, directeur marketing, il vous répond plus ?
Bah là, du coup, c'est silence radio. Après, on sait qu'ils travaillent sur le dossier. On est en contact avec eux aussi au niveau des sièges. Hein. On sait qu'ils travaillent sur le dossier, mais pour tout vous dire, il y a une de ces stratégies quand même des grandes entreprises de gagner du temps en créant du doute. Et donc leur sujet est de dire bien sûr qu'on le prend en compte et ce depuis longtemps. Rassurez-vous, mais attention, la méthodologie pour la détection n'est pas vraiment claire. Alors on peut pas mettre une réglementation. Il faut surtout qu'on reparle de la méthodologie. Ça fait maintenant des années qu'on parle de la méthodologie. Les experts nous disent qu'aujourd'hui on y voit quand même suffisamment clair pour mettre en place une réglementation. Et donc nous on est là pour les empêcher de gagner du temps. Après moi je trouve ça extrêmement dommage. Si vous voulez que des entreprises qui ont pignon sur rue comme ça jouent cette stratégie de gagner du temps plutôt que de privilégier l'intérêt des consommateurs et la santé. Mais si c'est le jeu, s'ils font ça, ben nous, on va continuer à dénoncer et à pousser pour que ça s'arrête.
Dans ce que vous racontez, on a l'impression que les contrôles sont très faibles, très insuffisants. Est-ce que vous partagez cette opinion ?
Oui, parce que du coup, je le disais tout à l'heure, on a une réglementation européenne sur l'alimentation qui s'est quand même étoffée au fil des années et qui est relativement solide. On a fait d'ailleurs toute une analyse détaillée de cette réglementation avec ce qui va et ce qui va moins bien. Donc sur le papier, il y a quelques manques, mais globalement, on pourrait être mieux protégé. Sauf que en vérité, ça n'est pas suffisamment mis en œuvre. Alors, on a un problème de suivi et de mise en œuvre sur la traçabilité, par exemple. On a le scandale de la viande de cheval, ce qui nous avait montré, 2013, ce qui nous avait montré, surtout, c'était les espèces de ramifications et de trajets incroyables que font les produits alimentaires entre les traders, les revendeurs. Ça voyage d'un pays à l'autre, c'est très compliqué. Pour autant, il y a une obligation dans la réglementation de traçabilité. On se rend compte avec les différents scandales alimentaires qu'on a eus ces dernières années, le scandale Lactalis en a fait partie, que ça n'est pas suffisamment mis en œuvre, ça n'est pas suffisamment respecté. Les contrôles également. C'est la responsabilité de chaque État membre d'opérer les contrôles sur l'ensemble des produits alimentaires qui sont commercialisés. Ce dont on se rend compte, et ce sont les premiers à le dire, c'est que les services de contrôle eux-mêmes, la répression des fraudes à la DGCCRF au ministère de l'économie et la direction générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture, n'ont pas les moyens toujours de faire leur boulot. Et surtout, on voit dans les budgets de ces dernières années que les effectifs continuent de réduire. Et là, aujourd'hui, on entend dire que peut-être certains contrôles vont être privatisés, vont être délégués à des entreprises privées. Mais non. Quand il s'agit de contrôle sur les aliments qu'on ingère Ça fait partie, encore une fois, de l'obligation de l'État de faire en sorte que ça se passe bien. Et surtout, alors que du coup les produits sont de plus en plus transformés, les chaînes sont de plus en plus complexes et internationales, on les réduit. Et ça peut pas aller. Alors pourquoi? Parce qu'il y a encore cette doctrine de dire, en fait, on va responsabiliser les entreprises et on va réduire le rôle de l'État et des autorités publiques, finalement. Et ça, encore une fois, j'espère que à la lumière de la crise du Covid-19, on va revenir un peu en arrière. On a vu ce que ça a fait avec l'hôpital. Moi, je suis désolée, mais les services publics, on a la chance de les avoir en France et pas dans tous les pays, mais il faut arrêter de les démanteler. Et sur la sécurité alimentaire, c'est pareil, il faut absolument donner les moyens à l'État. Parce que du coup, il se passe quoi? Il se passe que, pour responsabiliser les entreprises, ce sont elles qui font des autocontrôles. Et donc, c'est pas un problème que les entreprises soient responsabilisées et fassent des autocontrôles. On critique pas ça du tout, c'est important qu'elles se responsabilisent aussi. Mais ça ne doit en aucun cas, si vous voulez, réduire ou passer par-dessus la responsabilité ultime, qui est la responsabilité des autorités publiques, de s'assurer, elles, que ne sont commercialisés, en effet, que des produits qui ne sont pas dangereux pour la santé et qui sont conformes.
Alors, il y a un phénomène dans l'agro-industrie qui est connu depuis très longtemps, c'est le miel. On entend, on lit qu'il y a à peu près 30% du miel frelaté, qui en fait n'a jamais vu une abeille, qui est du sirop de glucose. Ça veut dire que les contrôles sont incapables de le déceler, ou ça veut dire qu'on ferme les yeux sur des produits importés qui ne sont pas conformes?
Plus généralement, il y a un problème de fraude alimentaire. Et donc, si on juxtapose, si vous voulez, le fait que, il y a de plus en plus d'échanges, de plus en plus dans des chaînes de plus en plus complexes, avec des produits de plus en plus transformés, et des contrôles qui font défaut, et il faut rajouter des sanctions qui font défaut. Parce que quand on a un manque de contrôle, mais qu'on a aussi des sanctions qui ne sont pas suffisamment dissuasives, alors ça donne quoi? Ça donne envie de frauder. Et c'est un marché juteux. Certains disent que c'est un marché aussi juteux que celui de la drogue, si vous voulez. Donc, j'en sais rien, j'ai pas comparé les chiffres, mais on sait que c'est un marché juteux et on sait que les fraudes sont en expansion. Le miel en est un exemple, mais c'est pas du tout le seul. Il y a beaucoup d'autres produits qui sont concernés. Donc oui.
Comme quoi? Il y a quoi comme produit?
Il y a des produits comme les poissons. Il y a de la fraude au bio. Il y a beaucoup de produits et on en a parlé là encore quand on a parlé de certains scandales alimentaires. Et Foodwatch regarde ça de très près au niveau européen.
Quand vous dites qu'il n'y a pas assez de sanctions, par exemple l'affaire Spanghero, est-ce que c'est des sanctions qui n'ont pas été assez fortes? Est-ce que vous pouvez rappeler ce qui s'est passé dans l'affaire Spanghero?
Ouais, c'est un exemple criant. Là encore, pardon, j'ai pas le chiffre en tête, mais vous trouverez sur le site internet le communiqué de presse qu'on a fait à l'époque. Je crois que c'était en avril 2019, en tout cas quand il y a eu la conclusion du procès Spanghero.
Donc, Spanghero, on rappelle, c'est la viande de cheval.
Voilà, donc Spanghero, c'est quoi? C'est le scandale de la viande de cheval en 2013, où tout d'un coup, on se rend compte, en France, mais en fait, c'est parti d'Angleterre, et donc ça concernait beaucoup de pays, mais la France était très touchée, on se rend compte que dans les lasagnes et autres produits où on est censé trouver du bœuf, en fait, c'est du cheval, mais on ne le sait pas. Donc, ça a fait un gros scandale à l'époque. Donc le procès de Spanghero et dans des traders ou deux même traders hollandais, parce que justement il y avait tout ce circuit là international, a eu lieu en France l'année dernière, et Spanghero étant l'entreprise qui au final faisait ses plats transformés qui ensuite étaient distribués partout, c'est-à-dire que c'est passé chez tous les distributeurs de France et de Navarre. Premier point, les distributeurs n'ont jamais été inquiétés là-dessus. C'est-à-dire que eux, leur responsabilité dans tous les scandales alimentaires, que ce soit Lactalis, j'espère que oui, parce qu'on a porté plainte. Mais dans tous les scandales alimentaires récents, les distributeurs, qui jouent un rôle de plus en plus énorme hein, sur le poids du marché et dans la distribution de tous ces produits, et pas que sur leur marque de distributeur, ne sont pas inquiétés. Donc, premier point, il faudra qu'il y ait des sanctions et une responsabilisation.
C'est la grande distribution.
Oui, Leclerc, Auchan, Carrefour, tous ceux qui distribuent du coup une grande majorité de ces produits. Quoi qu'il en soit, Spanghero, du coup le responsable de Spanghero et les traders incriminés, donc la conclusion du procès, c'était une somme, donc encore une fois les chiffres sont sur notre site internet, mais en gros, je crois que c'est la juge qui avait mentionné les bénéfices qui avaient été faits sur 8 mois ou 10 mois sur ce trafic-là qui était énorme. En face, on voyait l'amende que le responsable de Spanghero devait payer. Et la conclusion, c'est quoi ? La conclusion, c'est que ça donne envie de frauder, en fait, parce que ça valait le coup, si vous voulez. Il y a une espèce de disproportion qui n'est pas du tout suffisamment dissuasive. Donc, oui, il faut qu'il y ait des sanctions dissuasives pour envoyer un signal très fort à l'ensemble des acteurs de la chaîne, hein, c'est-à-dire les traders comme les fabricants, comme les distributeurs, et pour dire, mais en fait, ça suffit. Vous avez une responsabilité qui est d'ailleurs précisée dans la réglementation européenne. Vous devez, à tous les échelons, vous assurer que les produits sont conformes et non dangereux pour la santé. Sinon, ils ne peuvent pas être commercialisés.
Sur les étiquettes de beaucoup de produits, on a l'impression qu'il y a des allégations santé, où on nous met en avant des produits qui ne sont pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur. On nous fait miroiter du soleil, la Méditerranée, par exemple, alors que ce n'est pas du tout le cas à l'intérieur des produits. Est-ce que les industriels nous mentent ?
Alors, c'est ce qu'on appelle, nous, c'est notre campagne arnaque sur l'étiquette. Là encore, dans la réglementation sur l'alimentation européenne, qui s'appelle la réglementation 178 de 2002, c'est clair, il est dit qu'il est interdit d'induire le consommateur en erreur avec les informations sur les produits alimentaires. C'est une formule qui est large et qui laisse un peu trop de marge de manœuvre. Et là encore, nous, on demande aux autorités d'être plus strictes. Parce qu'effectivement, dans cette grande marge de manœuvre, il y a plein d'industriels qui poussent jusqu'à la limite de la légalité. Alors, parfois, ils tombent même, selon nous, dans l'illégalité. Mais ils poussent. Et d'ailleurs, pour nous, finalement, si on regarde bien la réglementation européenne, tout ça devrait être considéré comme illégal. Mais oui, du coup, il arrive qu'ils mentent, en effet. Il arrive qu'ils soient imprécis, parce que ça va induire en erreur. Il arrive qu'ils mentent carrément. Et c'est pour ça qu'on a cette campagne arnaque sur l'étiquette, où très régulièrement, plusieurs fois par an, on dénonce des exemples très précis d'emballage où on nous raconte un peu n'importe quoi, et c'est le règne de la désinformation. Alors, beaucoup changent, hein, d'ailleurs. Il y a plusieurs fabricants qui ont changé leurs emballages suite à notre campagne.
Est-ce que vous avez des exemples pour qu'on comprenne bien quel type de mensonges peuvent faire ces industriels ?
Oui, bien sûr. Par exemple, il y avait cette poêlée Bon Duel. Souvent, on fait des dossiers, en fait, pour montrer que ce n'est pas un seul produit, mais que c'est bien un problème un peu systémique et que plusieurs marques, plusieurs produits sont concernés. Et on avait fait ce dossier sur les produits soi-disant traditionnels, alors qu'ils vont avec les nappes Vichy à carreaux, les grands-mères, tout ce qui va bien, quoi, et qui, en fait, n'ont pas grand-chose de traditionnel, et notamment, on avait épinglé des produits qui ont des additifs controversés pour la santé et que nos grands-mères n'utilisaient certainement pas. Et c'était le cas d'une poêlée de légumes de Bon Duel qui, depuis, a supprimé, d'ailleurs, les additifs en question. C'est le cas aussi de produits. Il y avait par exemple des pâtes feuilletées, etc. Il y en avait une qui était de Herta, je crois, de mémoire. Mais d'autres aussi qui ont de l'huile de palme. Alors on prétend qu'on a une recette traditionnelle et on met de l'huile de palme dedans. Ben non, c'est incompatible. Donc on peut pas laisser faire croire que c'est la recette de ma grand-mère et qu'en même temps on met de l'huile de palme. Ma grand-mère elle en mettait pas. Mais il y a aussi quelque chose de plus grave qui sont les allégations santé.
Donc il y a des... Juste pour revenir là-dessus, ça, si les industriels mettent ça, c'est uniquement pour une question de coût, parce que l'huile de palme, c'est moins cher ?
Oui, l'huile de palme, c'est moins cher, mais du coup, si vous voulez, nous cette campagne, elle s'attache déjà à de la transparence et de l'honnêteté. C'est-à-dire que qui se dit envie de réduire les coûts en mettant des produits moins bons, déjà, on peut questionner, mais pourquoi pas ? Encore faut-il être honnête par rapport à ce qu'il y a dans le produit. Là où ça ne va pas du tout, c'est quand on a effectivement des emballages qui laissent penser qu'un produit est sain, bon pour la santé, combien vous avez de tisane, bonne nuit, il n'y a rien qui, si vous voulez, est validé pour vous dire que vous allez bien dormir avec. Juste comme ça s'appelle bonne nuit, vous allez l'acheter. Mais c'est le cas aussi de produits qui vont vous laisser penser sur des céréales, vous allez avoir des trucs genre énergie, en forme. En fait, c'est des bombes de sucre, si vous regardez bien. Donc, ça prétend, par des mentions qui ne sont pas encadrées légalement, ça prétend, si vous voulez, que ça va être bon pour la santé, la vôtre ou celle de vos enfants, encore pire, alors qu'on vous vend des bombes de sucre.
Quelle est votre relation avec les agences sanitaires, l'ANSES, l'Agence sanitaire européenne ? Est-ce que vous trouvez qu'elles font bien leur travail ?
Alors écoutez, on a été plusieurs fois en contact avec l'ANSES, notamment on a été auditionné dans plusieurs dossiers, dont celui des huiles minérales. Les avis de l'ANSES sont toujours très utiles parce qu'ils sont, ils sont quand même scientifiquement assez solides. Et surtout, les responsables politiques s'abritent toujours derrière. C'est-à-dire qu'avant de prendre une décision, ils disent, il faut qu'on demande à l'ANSES, même s'il y a d'autres éléments. Donc, globalement, ils jouent un rôle utile, bien sûr. Après, il y a une vraie question, mais qui a été posée, pas par Foodwatch, qui a été largement documentée et posée par beaucoup d'autres, sur les conflits d'intérêts éventuels. Et c'est le cas notamment plutôt au niveau de l'EFSA, donc l'autorité d'évaluation sanitaire des aliments européens.
Là-dessus, l'ONG CEO, Corporate Europe Observatory, dit qu'il y a 46% des scientifiques de l'EFSA qui ont un conflit d'intérêts avec les industriels. 46%, ça paraît à peine croyable comme chiffre.
Alors, CEO fait un travail formidable. C'est Corporate European Observatory, donc c'est une ONG, effectivement, qui est basée à Bruxelles et dont le travail est de surveiller les lobbies et de documenter, en fait, le travail des lobbies et leur influence sur les réglementations européennes. C'est eux qui avaient documenté le chiffre que je mentionnais tout à l'heure du milliard d'euros dépensé par le lobby de la malbouffe pour bloquer un logo nutritionnel en 2010. Donc oui, bien sûr, il faut se fier aux chiffres de CEO qui sont très sérieux et très reconnus pour ce travail. Et donc, bien sûr, il faut continuer à dénoncer ça parce que plus il y a conflit d'intérêts, moins on va pouvoir défendre l'intérêt général. C'est ce que je dis toujours avec les lobbies et ce problème de conflit d'intérêts. On croit vraiment dans l'Europe, hein, au niveau de Foodwatch. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est pas critiquer l'Europe pour critiquer l'Europe. Ce qu'on veut, c'est au contraire dénoncer ce qui va pas, être force de proposition pour avoir une Europe beaucoup plus protectrice des citoyens et de l'environnement, beaucoup plus démocratique, beaucoup plus transparente. On pourra revenir sur les accords de commerce. Mais du coup, quand il y a quelque chose qui va pas, il faut aussi le dire haut et fort. Et en l'occurrence, on avait découvert l'année dernière, que des sponsors privés pouvaient être des partenaires de la présidence du Conseil de l'Union européenne. J'explique. Tous les 6 mois dans l'Union européenne, il y a un des États membres qui prend la présidence du Conseil. Et donc, à l'époque, là, c'était la Roumanie, de mémoire. Et alors, on s'est rendu compte que Coca-Cola était sponsor officiel de la présidence roumaine pendant les 6 mois de la présidence roumaine. On a dénoncé ça haut et fort, on a lancé une pétition, on a surtout saisi la médiatrice européenne en disant « mais c'est absolument pas normal qu'il n'y ait pas de règles pour interdire ça ». Et donc on demande à ce qu'il y ait une règle mise en place au niveau européen pour que ce soit interdit, parce que ça, typiquement, là, il ne se cache même plus au niveau du conflit d'intérêts. Vous voyez, parfois, il y a des conflits d'intérêts qui sont dans l'ombre. Là, on s'affiche carrément comme étant sponsor. Donc partout où il y a effectivement un manque d'étanchéité, un manque de règles et un manque de transparence, il faut qu'on le combatte et qu'on en mette, parce que ces conflits d'intérêts sont vraiment, vraiment un ennemi public numéro un.
Est-ce que vous avez une idée, par exemple, de réglementation ou de réglementation qui ont pu être amoindries ou faites en faveur des agro-industriels à cause de conflits d'intérêts à l'EFSA ? À l'agence européenne.
Bon, le plus gros exemple, hein, je le donnais tout à l'heure, c'était quand même le glyphosate. Donc, il y a eu les Monsanto Papers, il y a eu un certain nombre de cas qui ont été largement documentés par des journalistes. D'ailleurs, Stéphane Essel, Stéphane Aurel, pardon, pour ne pas la citer, du Monde, et puis CEO, et puis beaucoup d'autres informations qu'on avait relayées. Mais il y a aussi eu un travail de redéfinition, justement, de l'EFSA, de la transparence qui est nécessaire. Parce qu'il y a une autre aberration, c'est que l'EFSA émet un avis donc scientifique sur la base d'une bibliographie de plein d'études scientifiques qui existent, et les décideurs européens, donc des États membres et de la Commission européenne, vont prendre une décision politique sur la base de cet avis. Souvent, les études sur lesquelles se base l'avis de l'EFSA viennent de l'industrie et en plus ne sont pas rendues publiques. Bon, donc, ne serait-ce que ça. Mais c'est ce qu'on dit tout le temps, c'est la transparence, ça va permettre d'éviter un certain nombre d'écueils et d'abus. Et ça va permettre de redonner de la confiance. Donc, il faut absolument que ces règles de transparence avancent.
Vous avez été dans les fichiers, justement, dans les Monsanto Papers. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé, comment vous l'avez appris?
Oui, ben en fait, on a découvert un matin dans la presse qu'il y avait ce scandale de Monsanto, en fait, du cabinet de lobbying de Monsanto, qui avait tenu un fichier qui avait listé 300 personnes, je crois, à peu près, qui avaient de près ou de loin une influence sur le dossier du renouvellement du glyphosate en Europe. Et en fait, on a appris par les journalistes qui avaient mené l'enquête, qui très vite nous ont prévenus, que j'étais personnellement sur cette liste, ainsi que Ingrid Kragl, qui est la directrice de l'information de Foodwatch. Et donc, on était sur cette liste. Et voilà, alors ça nous a beaucoup amusés parce que, en fait, non seulement on était sur cette liste, mais en fait, ils notaient sur cette liste les personnes en fonction de leur niveau de crédibilité et de leur niveau de soutien ou d'opposition voilà, au glyphosate et à Monsanto. Et voilà, on était très contentes parce qu'on était notées comme très crédibles et très opposées, ce qui est tout à fait notre position.
Et vous savez à quoi elle servait, cette liste ?
Bien sûr, elle leur servait à savoir ensuite quelles actions ils pouvaient mener pour faire changer d'avis ceux qui éventuellement pouvaient changer d'avis. Nous, je pense qu'ils ont assez vite compris qu'ils ne nous feraient pas changer d'avis. Neutraliser ceux qui pouvaient neutraliser, c'était un outil de stratégie de lobbying. On a porté plainte, du coup, parce qu'on a voulu, marquer le coup et ne pas laisser faire. Mais vraiment, quand on regarde Monsanto et cette histoire de glyphosate, alors Monsanto qui a été depuis racheté par Bayer, mais ça ne change rien, et cette histoire de glyphosate, c'est le cas d'école qui montre toutes les différentes stratégies des lobbies pour éviter des réglementations, etc. Et les lobbies, vous savez, ils ne s'arrêtent jamais, en fait. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait une réglementation, ils vont chercher à la bloquer, à faire en sorte que ça n'arrive pas. C'est ce qu'on voit, par exemple, je vous parlais tout à l'heure de l'interdiction de la publicité pour la malbouffe qui cible les enfants qu'on veut obtenir. En face, on sait très bien que les lobbies font en sorte de bloquer ça. On a vu aussi pendant la crise du Covid-19 que les lobbies alimentaires et des pesticides ne s'arrêtaient pas, bien au contraire. C'est d'ailleurs quelque chose qui s'appelle la stratégie du choc, qui a été très documentée par Naomi Klein, qui fait un boulot formidable, et qui a documenté largement le fait que quand il y a une crise, qu'elle soit telle qu'on vient de la vivre avec ce virus, ou qu'elle soit un cataclysme naturel ou une crise politique, alors effectivement, les lobbies qui défendent les intérêts privés et certains responsables politiques ultra-libéraux qui veulent un petit peu faire passer des réformes ou bloquer des réformes se servent de ces chocs-là. Et on a documenté pendant la crise que, par exemple, Bayer a envoyé une lettre à la Commission par rapport à cette fameuse stratégie dont je parle depuis tout à l'heure de la ferme à la fourchette, en disant, mais surtout, il ne faut pas rajouter de réglementation sur les pesticides. Donc, ils cherchent à bloquer autant qu'ils peuvent. Et quand il y a enfin une réglementation, ils cherchent à la contester et à la remettre en question. On a un exemple très criant. Je parlais tout à l'heure des pesticides qui sont toujours autorisés en Europe, même les pesticides donc, qui sont interdits d'usage en Europe parce qu'ils sont dangereux, sont autorisés à la production et à l'exportation. En fait, c'est vrai, sauf en France, où il y a enfin, là aussi dans la loi agriculture-alimentation, il a été décidé qu'à partir de l'année prochaine 2021, cette production et cette exportation des pesticides dangereux interdits en Europe seront interdits. Eh bien, bingo, qu'est-ce qui s'est passé depuis les industries liées à ça, c'est-à-dire l'UIPP, qui est l'Union des industries pour la protection des plantes. Alors, eux, ils appellent les pesticides la protection des plantes, il faut le savoir. Et l'Union des semenciers ont contesté cette décision, qui est une loi quand même, hein. Ils l'ont contesté auprès du Conseil d'État. Et le Conseil constitutionnel en France a rendu sa décision fin janvier, là, 2020. Et heureusement, on dit que oui, cette décision était justifiée et que la liberté d'entreprendre que voulaient défendre donc, les lobbies ne pouvait pas justifier d'interdire cette mesure qui voulait protéger les gens et l'environnement. Mais on sait qu'ils ne vont pas lâcher. C'est-à-dire que même quand il y a enfin une loi, ils font tout pour la contester, ils font tout pour faire en sorte... Alors qu'on parle de pesticides reconnus dangereux pour l'environnement, pour les gens, ça serait quand même une évidence de dire « bah ouais, on va arrêter, on va faire autre chose ». Non, au lieu de ça, ils se permettent de mettre des moyens dans le fait de... En plus, ils font perdre du temps au Conseil d'État et au Conseil constitutionnel, qui a autre chose à faire. Et ils vont tout faire pour contester cette loi. Je veux dire, c'est scandaleux. Et donc là encore, on va continuer à suivre et à dénoncer et à empêcher leur petite manigance dans l'opacité, parce qu'on va mettre des coups de projecteur. Voilà.
Est-ce que vous avez été intimidé ou est-ce que c'est toujours des louvoiements, des stratégies de doute, toujours des choses plus subtiles, le lobbying ?
Alors moi, j'ai jamais été intimidé. ni contacté directement, à part par, comme je vous disais, les responsables d'entreprise. Alors déjà, parfois, on est contacté en disant « Oui, est-ce que vous voulez pas participer à une consultation ?» Donc ça, déjà, on dit non. C'est-à-dire que tout ce qui est approche indirecte, on dit non parce que nos demandes, elles sont claires, que nos dossiers, ils sont en toute transparence sur notre site et que du coup, on veut que ce soit les entreprises concernées avec qui on puisse parler directement. Donc, on se laisse pas trop manipuler, quoi. Et après, je pense sincèrement que ces acteurs-là savent très bien qu'ils ne me feront pas changer d'avis. Donc, ça sert que c'est peut-être peine perdue avec moi. Et puis, on est en France quand même. Alors, je sais bien qu'on peut se faire intimider, mais écoutez, ça n'est jamais arrivé pour le moment. Et de toute façon, c'est pas ça qui va nous arrêter.
Quelle est votre relation avec les hommes politiques ?
Eh ben, les hommes et les femmes politiques. Écoutez, nous c'est pareil. On est de toute façon, on est transparent. On défend des objectifs d'intérêt général qui sont clairement nos campagnes et ce qu'on a sur notre site. Donc, on rencontre les responsables politiques, bien sûr, et puis de tous les bords pour discuter et surtout pour essayer de les convaincre, voire de les forcer dans certains cas à prendre les décisions nécessaires. Donc, c'est vrai au niveau du gouvernement. C'est vrai au niveau des parlementaires de l'Assemblée nationale où se font les lois quand même. Donc c'est très important d'expliquer à des parlementaires pourquoi il faut adopter l'interdiction des nitrites, pourquoi il faut adopter l'interdiction du marketing qui cible les enfants. Et puis c'est vrai au niveau européen. Donc la Commission européenne, les députés européens, partout où se font les lois, il faut nous aussi qu'on soit présents et qu'on explique les dossiers. Et puis qu'on puisse détricoter la désinformation souvent des lobbies. Je ne veux pas avoir l'air obsessionnel avec eux, mais ils ont un tel poids, ils ont de tels moyens, et c'est un tel tank, on va dire, de désinformation pour faire avancer leur agenda à eux, qu'il faut nous aussi qu'on occupe un peu le terrain pour expliquer, détricoter la désinformation et convaincre les décideurs politiques.
Comment les décideurs politiques reçoivent votre message ? Est-ce que vous sentez qu'ils ont envie de faire bouger les choses ? Est-ce qu'ils essayent de faire bouger les choses ? Ou est-ce qu'ils sont face à des lobbies qui les en empêchent ? Ou est-ce qu'ils ont un manque de volonté politique ? Comment vous trouvez qu'ils reçoivent votre message ?
Là, je crois qu'il faut faire attention à toute généralisation. Parce que vraiment, il y a autant de cas que de responsables politiques, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a des... Nous, évidemment, on est en contact avec des gens qui sont très, très, très mobilisés, très, très motivés par la défense de l'intérêt général. Ou peut-être, on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais par exemple, la protection des enfants avec la publicité pour la malbouffe, ça leur parle plus. Il y a quand même plein de gens de bonne volonté aussi dans l'espace politique. Et puis, il y en a un certain nombre... qui clairement sont de beaucoup moins bonne volonté, soit parce que certains peuvent avoir des conflits d'intérêts.
Ça, vous en avez vu, par exemple ?
Ça, non, mais ça, c'est des... si vous voulez, on s'en doute. Après, j'ai pas de nom à vous donner ou de choses qu'on a documentées et que je publierai demain. Mais on sent bien parfois qu'il y en a qui sont plus réceptifs que d'autres. Et puis, il y a aussi cette question des... vous savez ce qu'on appelle les revolving doors en anglais, c'est le pantouflage. Les plaques tournantes, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus une collusion entre le secteur privé et les autorités publiques et les responsables
politiques.
C'est-à-dire
des hauts fonctionnaires qui vont après dans le privé.
C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des hauts fonctionnaires qui vont dans le privé, des gens du privé qui deviennent hauts fonctionnaires, enfin on a des gens qui étaient des cadres du privé qui sont aujourd'hui dans le gouvernement et vice-versa. Et il y a toujours cet argument de dire oui, mais il faut bien que les gens aient une expertise qui sache de quoi on parle. Très bien. Sauf que là encore, il y a un manque accru de règles. S'il n'y a pas de règles pour garantir que quand même, on passe pas d'un côté à l'autre en ramenant ses petits dossiers, en ramenant ses petits copains, et du coup en ayant quand même des risques de conflits d'intérêts qui sont patents, on n'évitera pas les conflits d'intérêts, on n'évitera pas les dérapages. Or, aujourd'hui, c'est le cas. Si en plus on continue à dépecer les moyens de l'État, à démanteler un peu l'autorité publique et à privatiser, à déléguer et à privatiser certains services de l'État, comme les contrôles sur l'alimentation, ce que je disais tout à l'heure, où on entend parler qu'il risque d'y avoir une privatisation, alors là, c'est encore pire, si vous voulez. C'est-à-dire que tout d'un coup, on ne sait plus qui est le rôle de qui et qui joue quelle partition. Donc ça, c'est très grave. Donc c'est pour ça qu'il faut, des règles. Et puis après, il y a une question d'idéologie. Moi, je le répète, et j'espère, et Naomi Klein en parle très bien, et j'espère qu'avec cette crise, on va changer enfin de braquet, parce qu'on n'a pas vraiment changé après la crise financière de 2008. 2008, il y a eu aussi une crise alimentaire, je rappelle, avec des révoltes de la faim, et pour autant, les choses n'ont pas tellement changé. Il y a quand même une idéologie encore extrêmement prégnante chez nos responsables politiques, partout en Europe, et y compris en France, qui est cette, ce que j'appelle, moi, l'ultralibéralisme. Ça fait longtemps que je ne dis plus néolibéralisme, parce qu'il est plus néo. Ça fait depuis les années 80 que, malheureusement, c'est un peu un rouleau compresseur sur nos politiques. Et c'est pas que je sois, on dise, mais vous êtes contre le capitalisme. Je prends pas de position politique. Nous, on est apolitique à Foodwatch. Je dis juste que les risques de l'ultralibéralisme que je vois de façon concrète et pragmatique, c'est de refuser, justement, d'avoir des réponses publiques, étatiques, de services publics, et de responsabilités pour défendre les droits fondamentaux des citoyens, leur santé et l'environnement et la planète. Et ça, c'est pas acceptable.
Par exemple, est-ce que vous pouvez prendre un exemple avec le CETA d'échanges qui amoindriraient la qualité de la nourriture en Europe ?
Alors, le CETA, c'est un très vaste sujet, mais merci de revenir dessus, c'est très important. En fait, le CETA, cet accord de commerce entre l'Union européenne et le Canada, qui est le premier d'une longue liste d'accords de libre-échange qu'on appelle de nouvelle génération. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'avant, des accords de commerce, c'était essentiellement baisser les droits de douane. Donc on baisse les droits de douane des deux côtés pour que ce soit voilà, plus facile d'échanger. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Et en fait, au-delà de baisser les droits de douane, ce que les défenseurs de ces accords de libre-échange nouvelle génération cherchent à faire, c'est à baisser, voire supprimer, tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à des barrières au commerce. Le vrai problème, c'est que même les règles sociales, environnementales, c'est-à-dire interdire un pesticide, interdire un OGM, mieux protéger l'environnement, etc., toutes ces règles-là sont vues comme des barrières au commerce. C'est-à-dire que la boîte de Pandore de ces accords, c'est qu'ils visent à harmoniser les règles pour mieux commercer, sauf que dans harmoniser les règles, il y a mettre en place un certain nombre de mesures qui, dans la réalité, vont bloquer notre possibilité en démocratie européenne, par exemple, de décider demain d'interdire le glyphosate ou de décider demain d'avoir une règle d'étiquetage plus stricte sur les OGM. Pourquoi ? Parce qu'on signe des accords avec des États qui, eux, peuvent nous attaquer si on prend une décision, encore une fois, par exemple, décision de l'interdiction du glyphosate. Ils pourront nous attaquer au regard de ces accords en disant « hop, 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 nous, on n'est pas d'accord parce que votre interdiction de glyphosate, ça nous pose une barrière au commerce. Et on n'est pas d'accord avec votre justification que sur la base du principe de précaution, il faut l'interdire. Pourquoi ? Parce que le principe de précaution n'existe pas au Canada et que le principe de précaution n'est pas reconnu à l'Organisation mondiale du commerce. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas de la science-fiction ce que je raconte. Parce qu'en fait, par le passé, on a déjà été attaqué. Quand l'Union européenne a interdit l'importation de bœuf aux hormones dans les années 90, on a été attaqué par le Canada, les États-Unis et beaucoup d'autres pays devant l'Organisation mondiale du commerce qui ont dit « C'est quoi cette histoire d'interdiction d'importation de bœuf aux hormones ? C'est contre le commerce, vous n'avez pas le droit de faire ça. » On a perdu. Ça ne veut pas dire qu'on a été obligé d'importer du bœuf aux hormones, on ne l'importe toujours pas et ça restera interdit. Il ne faut pas jouer sur les peurs. On n'a jamais dit qu'on allait importer du bœuf aux hormones, ça restera interdit. Mais comme on a perdu, on a dû en compensation augmenter les quotas de bœuf sans hormones qui allait être importé, et on a dû payer des sanctions. Et ces accords de commerce réentérinent encore plus la possibilité pour ces États de nous attaquer. C'est-à-dire, à aucun moment, l'Union européenne a dit « Ah, on s'est déjà fait avoir, donc on va quand même mettre des clauses dans les accords pour dire « Les gars, vous êtes gentils, vous n'allez pas nous attaquer quand on prend des décisions européennes pour protéger l'alimentation, les citoyens, l'environnement. Vous vous engagez à ça ?» Pas du tout. Ils ont mis les règles de l'OMC vont prévaloir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la balle dans le pied qu'on s'est prise il y a quelques années, là, on se la remet bien dans les accords en disant « il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir nous attaquer ». Et ça, c'est des juristes qui l'ont documenté. Ce n'est pas moi qui suis en train de l'inventer. Et le dernier point, c'est que non seulement on peut être attaqué par les États avec qui on signe, mais on peut être attaqué par des investisseurs privés. Et ça, c'est une clause qui est dans l'accord, notamment avec le Canada, mais pas seulement avec celui-là, qui met en place des tribunaux d'arbitrage, qui sont en fait des tribunaux qui n'ont rien à voir avec notre système de justice en France ou en Europe ou même au Canada. Ce sont des tribunaux complètement à part, hors sol, qui sont privés, avec des juges, qui sont des arbitres qui sont nommés privés, et que seuls des investisseurs étrangers peuvent saisir. Et donc, si demain, on interdit le glyphosate, par exemple, on peut très bien avoir une filiale d'une entreprise qui utilise ça, parce que c'est un exemple général, hein, mais en tout cas, si on interdit quelque chose et que une entreprise qui a une filiale au Canada estime que ça va à l'encontre de ses intérêts et de ses bénéfices, elle peut très bien attaquer cette décision. En théorie, elle ne peut pas empêcher cette décision, ni demander l'annulation de cette décision, mais elle peut demander des sommes exorbitantes en compensation. On parle de milliards d'euros. Là encore, ce n'est pas de la science-fiction. Il existe plein de cas déjà existants. Et ce serait vraiment se tirer une balle dans le pied que d'accepter de signer ces accords et de se mettre cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et donc, juste pour conclure là-dessus, si on signe ces accords, en fait, c'est pas écrit comme ça noir sur blanc, mais quand on lit bien entre les lignes, la menace, c'est de pas pouvoir décider de nouvelles règles pour nous protéger, voire d'avoir une harmonisation par le bas. Et surtout, c'est parfaitement antidémocratique. Ça n'a pas été discuté au niveau européen avec les citoyens. Le CETA est passé à la va-vite au niveau de sa ratification à l'Assemblée nationale en juillet 2019. C'est passé vraiment pendant l'été, enfin sans beaucoup de débats démocratiques, même si on s'est battu pour expliquer tout ça. On attend toujours la ratification au Sénat. Pendant ce temps, l'accord, lui, est déjà mis en œuvre. Et en plus, si les lobbies qui vont avoir une influence sur les décisions qui sont prises à travers ces accords après, sur les normes qui sont décidées ou pas en Europe, sociales, environnementales, continuent à faire ce travail d'influence, ça veut dire que nous, la démocratie en Europe qui voudrait qu'on peut, si on veut, faire décider l'interdiction d'un additif E171, on peut, si on veut, faire décider l'interdiction de tel ou tel pesticide, on n'aura plus cette possibilité-là. Donc tous les débats qu'on a à côté, toute la discussion qu'on vient d'avoir pendant une heure sur il faut faire interdire les additifs dangereux, il faut faire une réglementation pour empêcher les huiles minérales, il faut un meilleur étiquetage, il faut plus de contrôle, tout ça, si on signe ces accords, eh ben on aura bien du mal à le faire. Parce qu'on pourra tellement se faire attaquer que ça aura un effet dissuasif sur nos régulateurs.
Alors, quelles sont les priorités? Dernière question, quelles sont les priorités pour réguler cette nourriture industrielle qui attaque la santé des citoyens?
Vous l'avez dit, hein, la santé, c'est vraiment quand même la priorité numéro un. Donc, je crois qu'on a brossé là, dans notre échange plusieurs pistes concrètes. C'est ces pistes-là qu'il faut poursuivre. Malheureusement, ce qui devrait être l'évidence, on doit se battre, ça prend du temps, on doit se battre au niveau national, au niveau européen, mais ça vaut le coup, parce que oui, du coup, c'est l'interdiction des additifs dangereux pour la santé, une réglementation qui fasse en sorte qu'on n'ait plus ces MOA, les dérivés de pétrole cancérogènes, mutagènes dans l'alimentation. C'est aussi lutter contre cette épidémie d'obésité et crise de diabète qui touche beaucoup trop de gens. Et rien de tout ça n'est une fatalité. Donc ce sont vraiment des combats politiques. Bien sûr, on peut s'adresser aux fabricants, aux distributeurs, aux géants de l'agroalimentaire, pour leur dire « soyez responsables, ne faites pas n'importe quoi et prenez des engagements ». Mais le plus important, ce sont les décisions politiques qui vont faire que les règles du jeu sont les mêmes pour tout le monde et que les citoyens sont enfin suffisamment protégés. Le tout aussi en ne perdant pas de vue les questions environnementales, c'est-à-dire une alimentation saine et durable, ça va ensemble.
Vraiment dernière question, quel conseil vous donneriez aux gens qui ont entendu votre discours et qui le partagent pour s'engager? Comment on peut s'engager quand on a compris votre message?
Le truc, c'est qu'on peut être un consommateur responsable, faire attention à ce qu'on achète, regarder par exemple s'il y a de l'huile de palme dans un produit soi-disant traditionnel.
Moins acheter de produits ultra transformés.
Mais oui, la plupart des experts disent quand même c'est pas mal d'éviter les produits ultra transformés parce que mathématiquement, de toute façon, plus vous prenez un produit transformé, plus il a de chances d'avoir d'additifs, moins il a de chances d'avoir de nutriments qui vont vraiment vous nourrir. Donc il y a moyen, bien sûr, de manger déjà mieux avec ce qui est disponible. Mais le vrai problème, c'est que même quand on veut être un consommateur averti, on ne peut pas souvent faire des choix éclairés parce qu'on n'a pas accès à l'information, parce que les emballages induisent en erreur, parce que la contamination par les résidus de pesticides et les huiles minérales, on ne les voit pas à l'œil nu, ça n'est pas étiqueté, on n'en sait rien. Donc on a besoin du coup d'avoir ce travail d'expertise de lanceur d'alerte, on a surtout besoin de faire front et de faire corps. Donc rassemblons nos forces, réunissons-nous, non seulement dans la communauté de Foodwatch, parce que c'est vrai que plus on est nombreux, plus on fait contrepoids, et c'est un contrepoids citoyen 100% indépendant, puisqu'on ne prend pas en fait, de subventions publiques ni de dons d'entreprise pour être 100% indépendant. Donc, c'est les citoyens qui nous donnent les moyens d'agir. Et nous, après, on se fait fort aussi de travailler en synergie avec d'autres associations et puis avec tous les gens qui peuvent faire avancer les choses. Et c'est comme ça, en réunissant nos forces, qu'on peut tenir tête au lobby et contraindre les responsables politiques à avoir ce courage politique de prendre des décisions qui sont évidentes, qui sont à portée de main. C'est juste qu'il ne faut pas lâcher et continuer à pousser.
Karine Jacquemart, un grand merci d'être venue nous
voir. Merci à vous.
À bientôt.